Deuxième invité sur le plateau de Fréquence Mistral, et nous sommes en direct, dans le cadre du Festival des Correspondances, Paulina Panasenko publie « Tenir sa langue » aux éditions de l'Olivier. C'est un livre sur les origines et les racines, et pour en parler, quoi de mieux que la langue, bien sûr. « Tenir sa langue », dit-on aux enfants pour les inciter au silence. Et dans le titre du roman de Paulina Panasenko, l'expression revêt des sens multiples, du mutisme volontaire ou subi, à la perte des racines familiales et linguistiques, et même de l'accent. C'est aussi un livre sur les lourdeurs administratives et juridiques de la France, tout autant que les mutations de la Russie des 20e et 21e siècles. Bonjour Paulina Panasenko.
Bonjour.
Vous le déclarez avec force, ne m'appelez plus Pauline. Nous allons voir pourquoi et comment changer de prénom n'est pas si facile. Ne m'appelez plus Pauline, la narratrice se souvient de son enfance en Russie, toute la famille dans un seul appartement, et elle se souvient aussi du 26 décembre 1991, la chute de l'URSS. La famille quitte la Russie en 1993, elle arrive en France, à Saint-Étienne. Surprise et enthousiasme de la petite fille, invitée chez leurs voisins Maurice et Colette, elle découvre une réalité culinaire qui va la marquer, une réalité culinaire française. Je vous lis un extrait de tenir sa langue. On passe à table. La boîte noire au centre m'intrigue. On dirait un outil de travail de mon grand-père à la datcha. Chez nous, ma mère n'aurait pas autorisé qu'on le pose sur la nappe. Maurice nous le présente. Il commence par distribuer à tout le monde une mini-pelle et un petit bout de bois. J'adore avoir ma propre mini-pelle. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais quoi qu'il arrive, j'adore. Ensuite, Maurice dépose un carré jaune mou sur la mini-pelle et la fait disparaître dans la boîte noire. Colette en fait autant, puis mes parents et ma sœur, moi, je ne bouge pas. Maurice montre la boîte noire et dit « raclette ». Il met un carré jaune mou sur ma mini-pelle et la fait disparaître avec les autres dans la boîte noire. J'aime bien Maurice. Quand il respire, ça fait le même crépitement que celui de mon grand-père. Le carré jaune, c'est du fromage. Quand il fait des bulles, on met une patate dans son assiette et on le verse dessus. Il faut faire très attention à ne pas toucher la mini-pelle avec une fourchette, seulement avec le petit bout de bois, même si c'est moins pratique. Sinon, on raye les mini-pelles et c'est très grave, parce qu'elles font partie de la boîte noire et c'est précieux. Quand on rentre chez nous, je repense encore à la boîte noire. Raclette, je suis pas prêt d'oublier son nom. Même question que pour Claire Baglin tout à l'heure, Paulina, c'est du vécu ?
Oh ben c'est une réponse similaire, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que ça pourrait l'être, ça pourrait ne pas l'être. Je ne sais pas si c'est exactement ça qui m'intéresse. Mais si vous regardez en état civil, vous allez trouver des points de croisement avec celui de la narratrice, oui.
Effectivement, vous êtes né en Russie, vous êtes franco-russe. Et en 93, donc 2 ans après la chute de l'URSS, votre famille arrive en France. Vous croyez que c'est à Paris ? Non, c'est à Saint-Étienne. Et là, la petite fille que vous êtes, puisqu'on parle de vous...
On peut parler de la narratrice.
La narratrice.
Il s'agit tout de même d'un roman.
C'est bien. Donc restons avec la narratrice. Elle va découvrir la France. Donc là, elle a découvert la raclette, elle va découvrir beaucoup d'autres choses. Elle va découvrir l'école, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école. Et c'est un moment très particulier, puisque ces premiers contacts qui vont passer par la langue et la prononciation. Alors évidemment, tout à l'heure, on a eu la prononciation de ce mot incroyable, raclette, qui n'est pas écrit de manière très... particulier, très 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 correct, on va dire, et qui est plutôt en phonétique dans votre livre, de même que Hôpital Nord, par exemple, et puis d'autres choses. Elle apprend une expression utile pour un premier contact, une expression très courante, ça va. Oui, mais le mot ça va en russe, ça désigne un hibou. Donc elle dit, en France, on doit donc dire hibou pour saluer les gens. Il y a beaucoup d'humour dans votre livre, hein, Paulina. Un humour décalé sur fond de langage, passé par le prisme d'un enfant et omniprésent dans tenir sa langue. C'est un choix, Paulina ?
Le choix de l'humour?
Oui.
Je ne sais pas, je crois que c'est plutôt le produit d'un décalage qui est celui de la vision de la narratrice qui arrive enfant et qui a... C'est un double décalage, à la fois du regard du point de vue de l'enfant, mais aussi d'une autre langue. Donc je crois que c'est les produits de friction entre la perception du lecteur et celui de la narratrice.
Avec toujours ce double langage qui est à la fois le français, le russe, le français à l'extérieur, le russe à l'intérieur, on va y revenir. Et puis évidemment c'est un livre aussi sur les racines, puisque bon, elle est déracinée de sa Russie, elle y retourne de temps en temps en tant qu'adolescente, puis en tant qu'adulte, notamment pour un moment difficile, c'est l'enterrement de son grand-père. Donc des moments particuliers et ce va-et-vient très spécial entre deux pays, entre deux civilisations, entre deux langues, deux cultures, de quoi se perdre.
Oui, alors c'est-à-dire que c'est une petite fille qui est écartelée entre deux langues, entre deux pays, et aussi qui est mise face au danger d'oubli de la langue maternelle. Donc il faut résister à cet oubli, en même temps apprendre la langue française, et la question de la trahison est aussi au centre, c'est-à-dire comment apprendre une langue étrangère sans oublier la langue maternelle, mais aussi comment... À partir de quand une langue étrangère cesse de l'être? Et une fois qu'une langue n'est plus étrangère, est-ce qu'elle en devient pour autant maternelle?
Donc c'est une vraie question, une question qui touche bien plus qu'à la langue. C'est l'identité, c'est la culture, c'est la famille, c'est beaucoup de choses, et qu'on voit en filigrane aussi dans votre livre, la linguistique et le langage étant la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi des expressions magnifiques. Alors par exemple, si je vous dis à la maternelle chic, la terminaison chic qui est employée pour adoucir les mots et ce qu'ils représentent, ça c'est la mère qui souvent met un chic pour pouvoir faire admettre à sa fille par exemple d'aller à la maternelle. Et donc à la maternelle chic, elle est à part, étrangère, et vous connaissez la cruauté des enfants, hein. Elle se lie d'amitié et complicité avec un Français, Philippe, lui aussi rejeté par les écoliers car il est bègue. Tiens, un problème de langue, là aussi. Et au fur et à mesure, c'est le grand mélange et c'est un langage imagé qui nous l'explique. Je vais vous demander, Paulina, de lire un extrait de votre roman, parce qu'il y a des mots russes, et mon russe est beaucoup trop sommaire. Alors vous parlez de... justement de ce dilemme entre les mots et la langue.
Ma mère veille sur mon russe comme sur le dernier œuf du coucou migrateur. Ma langue est son nid, ma bouche, la cavité qui l'abrite. Plusieurs fois par semaine, ma mère m'amène de nouveaux mots, vérifie l'état de ceux qui sont déjà là, s'assure qu'on n'en perd pas en route. Elle surveille l'équilibre de la population globale, le flux migratoire, les entrées et sorties des mots russes et français. Gardienne d'un vaste territoire dont les frontières sont en pourparlers. Russe, français. Sentinelle de la langue, elle veille au poste frontière. Pas de mélange. Elle traque les fugitifs français hébergés par mon russe. Ils passent, dos courbé, tête dans les épaules, se glissent sous la barrière. Ils s'installent avec les russes, parfois même copulent, jusqu'à ce que ma mère les attrape. En général, ils se piègent eux-mêmes. Il suffit que je convoque un mot russe et qu'un français accourt en même temps que lui. Vu ! Ma mère les saisit et les décortique comme les crevettes surgelées d'Oshan Centre-Dieu. On ne dit pas « gravatsa », on dit « parkavatsa » ou « garer la voiture ». La prochaine fois que « gravatsa » arrive, je lui dis « non, pousse-toi, laisse passer « parkavatsa ». On ne dit pas « manjevatsa », on dit « stalavatsa » ou « manger ». Attention, attention, sinon tu vas finir comme les fils Morkovine. Je les ai vus, les fils Morkovine. Je sais ce que je risque. Les fils d'un collègue de mon père, des jumeaux, à peine plus âgés que moi. Arrivés de Saint-Pétersbourg, ils ne parlent plus vraiment le russe ni tout à fait le français. Ils cherchent leurs mots, ils ont un accent bizarre, des consonnes trop dures, des voyelles trop ouvertes. On dirait qu'ils sont en train de muter. Ils ont déjà la langue dans le formol, on va les mettre en bocal et les observer. Je ne veux pas muter, mais je n'ai rien vu venir. Il fallait faire rentrer le français, et maintenant qu'il est là, on me dit qu'il va me changer en mutant Morkovine.
Merci Paulina, vous avez compris que pour moi c'était difficile de lire cet extrait, vous le lisez remarquablement bien. Votre russe est bien maîtrisé aussi, ce qui ne m'étonne pas du tout. Alors dans cet extrait, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est des images qui nous font penser à Lampedusa, qui nous font penser à l'île de Lesbos, avec des migrants qui débarquent et qui sont soit rejetés, soit intégrés d'une certaine manière, en tout cas qui essaient de résister. C'est une image aussi qui vous a servi pour ce livre?
Pas vraiment, non. Je pense que c'est quand même des situations très différentes parce que il s'agit dans le roman, cette famille émigre pour des raisons professionnelles et économiques et ils le font dans des bien meilleures conditions que celles que vous évoquez. Je crois que ce sont des formes de migration très différentes.
Alors dans cet extrait de texte aussi, mis à part cette situation particulière, on voit le problème et même s'il est traité avec humour, c'est pas si drôle que ça en fait.
Oui, non, c'est pas vraiment si drôle que ça, mais je crois que c'est aussi la nécessité de trouver son propre endroit face à l'injonction de choisir. C'est-à-dire qu'on lui demande à la narratrice, d'abord petite fille, puis jeune femme, on lui demande souvent, alors où est-ce que c'est le mieux? Est-ce que tu es plutôt russe ou française? On lui demande en permanence de choisir et résister à cette injonction demande une énergie, une conviction considérable.
C'est un dilemme pour elle?
Ah oui, je crois que c'est une forme d'écartèlement parce qu'en fait, tout le parcours qu'elle va faire, c'est de comprendre qu'en fait, il ne faut pas se laisser enfermer par cette question.
Avec donc russe à l'intérieur, français à l'extérieur. Quand on sort, on met son français, dit-elle à un moment. Et puis il y a un passage terrible aussi dans votre livre où elle se rend compte en Russie qu'elle a perdu son accent russe. Et là, elle se dit, oh là là... Il me manque quelque chose, comme s'il lui manquait une jambe.
Elle perd son accent russe en français. C'est-à-dire qu'elle parlait français avec accent, puis un jour, elle n'a plus cet accent. Et là, la question de la trahison se pose de façon aiguë, puisque ses parents, eux, ont encore un accent. Et donc, elle a l'impression de trahir quelque chose en se distinguant des siens par la parole, puisque la parole est aussi, bien sûr, une forme d'appartenance.
Et une forme d'apparence, forcément, forcément aussi. Alors les années passent, le prisme de l'enfance disparaît pour laisser place à l'ado, puis l'adulte qui retourne en Russie, mais doit être prudente. Elle risque d'être enlevée et rançonnée si on apprend qu'elle vit en France. Paulina, vous avez vécu cette situation ou c'est inventé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous savez, c'est une composition, c'est un roman avec il y a de l'un et de l'autre. J'ai fait des recherches et je me suis nourrie aussi de sensations personnelles, mais c'est une composition.
Je vais être plus précis. La mafia russe peut tomber sur quelqu'un qui vit en France, l'enlever et puis demander une rançon?
Alors. Là, dans le roman, je fais plutôt allusion aux années 90. C'est le moment où la narratrice est quand même plutôt encore une enfant. Et dans les années 90, il est vrai qu'il y avait beaucoup d'enlèvements et de demandes de rançon parce que c'était un moment de crise économique aiguë dans le pays. Et il y avait effectivement beaucoup d'enlèvements. Et donc, c'était une inquiétude forte chez beaucoup de parents, mais aussi chez beaucoup de jeunes femmes. C'était une pratique en cours, oui.
D'où l'interdiction de dire « je vis en France, surtout pas » et dire « je suis russe comme vous », etc., etc., quoi.
Alors, on peut l'expliquer comme ça. Et puis, aussi, cet interdit vient des grands-parents qui... On peut aussi y voir une certaine forme de... ils n'acceptent peut-être pas tout à fait que leurs enfants aient émigré, qu'ils aient quitté le pays.
À la rentrée de quatrième, je reçois un courrier de Lionel Jospin, c'est le Premier ministre. Ma sœur dit, c'est pas lui qui a signé, c'est une machine. N'empêche, dans le courrier, il écrit, française de plein droit par naturalisation du père, autorisée officiellement à s'appeler Pauline. Mon père dit, c'est bien, ça te donne le choix. Maintenant, c'est officiellement Paulina, dedans, et Pauline, dehors. Difficile de faire cohabiter les deux. Après l'avis du Premier ministre.
Alors finalement, cet avis du Premier ministre vient officialiser cette scission entre le dedans et le dehors, entre Pauline et Paulina. Donc finalement, c'est quelque chose qui vient refléter déjà un écartèlement intérieur qu'ensuite il va falloir déconstruire parce que la distinction des langues, c'est le fait de parler français à l'école et russe à la maison. La narratrice, elle peut parler toutes les langues. Donc c'est juste une façon de s'adapter à son auditoire. Mais elle, ensuite, le défi, ça va être de surmonter cette scission intérieure.
On voit bien comment vous avez placé le décor sur votre livre, où il y a effectivement une part de fiction, mais aussi une part de vie réelle et la vôtre. C'est très difficile, en fait, dans une société, de pouvoir dire « j'ai des origines différentes, diverses, et en plus je veux qu'on les respecte ». Vous avez mis plusieurs années pour faire retourner votre véritable prénom d'origine, c'est-à-dire Paulina, qu'on prononce Palina en russe, si j'ai bien lu votre livre, et donc effacer ce Pauline français. C'est un parcours du combattant que vous avez vécu.
Oui, alors il y a des parcours du combattant plus difficiles que celui-ci.
C'est vrai.
Mais effectivement, il y a une forme de lourdeur administrative qui est liée au fait que ce soit une demande de récupération de prénom de naissance et non pas juste de changement de prénom. C'est-à-dire que si on s'appelle Paul et qu'on veut s'appeler Jacques, ça sera plus simple, la démarche sera beaucoup plus simple que si on a un prénom qui a été francisé et qu'on veut récupérer son prénom de naissance.
Je vais être encore plus clair, si on s'appelle Rachid et qu'on veut se transformer en Paul, c'est possible. Par contre, si on s'appelle Paul et on veut se transformer en Rachid, c'est un petit peu différent pour des raisons sociologiques, culturelles également, et administrative.
Alors, c'est pas uniquement lié au prénom, c'est aussi lié au fait que le prénom ait été francisé au moment de l'obtention de la nationalité française. Et du coup, le fait de vouloir récupérer son prénom de naissance est perçu, en tout cas par la procureure dans le roman, comme un rejet, comme une remise en cause de cette nationalité française, ce qui, évidemment, n'est pas le cas pour la narratrice.
Et ça veut dire que l'État aussi provoque votre intégration dans la société française, en quelque sorte.
Je crois que c'est l'illusion qu'en rejetant de la langue un prénom qui lui semble, qui selon lui n'est pas français, cela va faciliter une intégration, je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est pas tellement un mot que j'aime particulièrement, et évidemment c'est illusoire.
Alors la narratrice perd petit à petit son russe et surtout l'accent, mais elle garde amour et admiration pour ses grands-parents et surtout son grand-père, dont elle suivra les obsèques avec curiosité, parce que vous savez, ça ne se passe pas comme en France, en Russie, les obsèques. Et elle se souvient juste jusqu'à la fin du livre d'une chanson de la Révolution que chantonnait son aïeul, « Les fenêtres de Moscou » de Léonid Outiosov. Un chanteur très connu en Russie.
Oui, mais alors c'est pas tout à fait une chanson de la Révolution, c'est juste une chanson qui était ensuite devenue très populaire parce qu'elle a été utilisée dans un film soviétique. Et
pour valoriser quoi donc? La Révolution.
Alors il n'est pas exactement question pas de la Révolution.
Hein. C'est pas le cas de la chanson en question, mais c'est le cas plutôt de ce chanteur Léonide qui est.
Oui, alors c'est un chanteur soviétique, lui il est né en Ukraine, c'était un juif d'Ukraine et il a dû changer son nom lui aussi, puisque ce n'était pas, on lui a dit que ça n'allait pas être possible de se produire avec son nom juif. Et donc il a.
C'est intéressant parce qu'on peut faire un parallèle avec la narratrice.
Je ne l'ai pas choisi pour rien, bien sûr. Oui. Et effectivement, c'est un chanteur qui écoute beaucoup son grand-père.
Et c'est une belle chanson en plus, magnifique, c'est très nostalgique sur les fenêtres de Moscou. C'est un livre qui vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est votre premier roman, je le rappelle.
Oui, je crois que ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, oui.
Mais du plaisir aussi.
Aussi, oui.
Aussi. Alors au-delà de la linguistique, Paulina, ce qui nous interpelle, ce sont ces années de procédure pour avoir ce prénom que vous voulez, là il y a du vécu, on en a déjà parlé, mais comment vous, avec un œil à moitié extérieur, je pèse mes mots, vous avez vu cette lenteur, il a fallu vous adresser à une avocate pour pouvoir faire avancer le projet. Vous avez eu affaire à une procureure qui vous a expliqué certaines choses, ça a duré plusieurs années. Comment on vit ça?
Bah, c'est vrai que c'était long, mais cette procédure-là, ce qui m'intéressait pour le roman, c'était moins cette lourdeur administrative qui finalement est propre aussi à d'autres pays, en France certainement, mais aussi d'autres pays, que ce que ça représentait. C'est-à-dire que ça m'intéressait de me demander pourquoi le prénom Paulina semblait tellement dangereux pour la procureure. Pourquoi ce rejet? Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la langue et par rapport à cette histoire de obtention de nationalité? Donc pour moi, ça a été plus l'objet d'une interrogation dans ce sens.
Une petite faveur, Paulina, prononcez-le à la russe, s'il vous plaît, votre prénom.
Paulina.
Oh, que c'est joli. Que c'est joli. Vous êtes présente ici même à Manosque pour les correspondances de Manosque. La première fois que vous venez également ici?
Oui, c'est la première fois, oui.
Vous avez déjà participé à des rencontres ou ça va avoir lieu?
C'est tout à l'heure, à 18h, avec Maria Larrea. C'était prévu sur une place. Je ne sais pas si elle est couverte, si ce sera possible.
18h, je pense que c'était à la place d'Herbès. Donc, on espère... non, place Marcel Pagnol, bon, on espère que ça va bien se passer au niveau du ciel et qu'il ne se mette pas à pleuvoir à ce moment précis. Vous allez être interviewé par Maya Michalon, qui est une excellente modératrice. Et Maria Larrea aussi pose des questions d'origine sur son livre magnifique, là où c'est un titre assez compliqué. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. C'est un livre sur les origines, plus que sur la langue. Vous allez vous retrouver certainement en face. Vous avez lu le livre de Maria?
Oui, je l'ai lu, bien sûr, oui.
Donc ça va être intéressant de croiser vos regards sur ça.
Absolument.
Même s'il y a un côté plus mystérieux, peut-être chez Maria, et plus surprenant que dans votre livre. Ça va être une rencontre passionnante. C'est tout à l'heure à 18h, donc place Marcel Pagnol, si tout va bien. Et puis d'autres manifestations, vous allez suivre des choses
Oui, alors demain, j'ai un apéro littéraire.
Quelle chance.
À 11h, avec Adrien Bels.
Très bien. Donc demain, ce sera à ce moment-là, place d'Herbès à Manosque. Merci beaucoup, Paulina Panasenko. Tenir sa langue, c'est un premier roman subtil et malicieux qui, pour moi, en appelle d'autres. J'attends avec impatience. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.